Pour la prédication de ce matin, nous allons poursuivre dans l'épître de Jacques. Il y a quelques semaines, nous avions vu les tout premiers versets du chapitre 1 de l'épître de Jacques et nous allons poursuivre en prenant la lecture des versets 12 à 18 de ce chapitre 1 de l'épître de Jacques. Et la version que je vous lirai et qui s'affiche aussi derrière moi est la version de la Bible en français courant. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas, il ne produit pas d'ombre par des variations de position. Il a voulu lui-même nous donner la vie par sa parole qui est la vérité, afin que nous soyons au premier rang de toutes ses créatures. Un texte qui fait donc suite au premier verset où l'apôtre Jacques abordait déjà la question de l'épreuve. Et là, il va un petit peu plus loin encore en nous parlant même de la face plus sombre de l'épreuve qu'est la tentation. Et pour aborder tout de suite la question délicate du rôle de Dieu dans l'épreuve et les tentations, je redis ce qu'affirme tout simplement Jacques dans le passage que nous avons lu. Dieu n'est pas tenté de mal faire et il ne tente personne. Dieu nous met à l'épreuve dans le but de nous faire grandir dans la foi. Mais dans notre texte, là, il est plutôt question de tentation, quelque chose dont l'intention n'est pas de nous faire grandir dans la foi, mais au contraire de nous faire chuter. Les tentations ont pour but de nous faire chuter et par conséquent ne viennent pas de Dieu. Alors on pourrait croire peut-être que du coup, les notions d'épreuve et de tentation sont radicalement opposées. Mais en réalité, vous le saviez peut-être, nous avons un seul et même mot pour décrire ces deux faces de la même pièce. La plupart de nos traductions de la Bible traduisent ce même mot soit par épreuve, soit par tentation, selon le contexte. Cela signifie qu'une même difficulté, un même événement, peut être vécu comme une épreuve qui renforcera notre foi, ou bien comme une tentation, la tentation de ne pas faire confiance à Dieu, la tentation de vouloir diriger notre propre vie au lieu de laisser les commandes à Dieu. La tentation peut-être aussi de baisser les bras et d'arrêter la lutte contre nos mauvais penchants. On pourrait dire que dans toutes les épreuves même, il y a la tentation, le danger de se laisser tenter. La différence entre l'épreuve et la tentation n'est pas dans la nature de la chose, mais c'est plutôt dans l'intention. La tentation veut faire tomber alors que l'épreuve vise à renforcer notre foi. Les tentations, d'ailleurs, ne sont pas que des difficultés. Elles peuvent être aussi, ces tentations, des facilités. Par exemple, le confort, la richesse sont de bonnes choses, mais ça peut vite devenir une tentation, la tentation d'avoir toujours plus, de posséder plus, etc. En ce qui concerne les tentations, plusieurs commentateurs aussi font une distinction entre les tentations qui sont intérieures, liées au pouvoir qu'a encore le péché dans notre cœur, soit extérieures, des attaques externes du diable ou de la part d'autres personnes, ou des circonstances. Cette différence est assez fine. Il faut être assez prudent pour manier une telle différence, parce que, effectivement, même si certaines attaques ne viennent pas que de l'intérieur au départ, elles peuvent rapidement prendre racine, trouver quelque chose dans notre cœur qui n'est pas encore entièrement sain, pour devenir aussi des tentations qui finalement sont intérieures et des luttes qui sont intérieures. Ceci dit, sur la base de plusieurs passages bibliques, dont celui-là, nous pouvons affirmer avec la parole de Dieu qu'un être mal intentionné, le diable, notre adversaire spirituel, joue un rôle dans la tentation. Il veut nous posséder, il veut nous avoir pour lui parce qu'il désire ce qu'il n'a pas, il convoite le règne de Dieu. Au contraire, Dieu, lui qui règne sur toute chose, sur tout être humain, n'a rien à convoiter, n'a rien à envier. Dieu est souverain et Satan est une de ses créatures, une créature qui s'est détournée de lui, qui a suivi son chemin et pas celui de Dieu. Mais Dieu contrôle la situation, même si nous ne le comprenons pas toujours. Mystérieusement, mais souverainement, Dieu laisse à Satan, au diable, un certain pouvoir, notamment celui de séduire, de tenter, de faire trébucher et même de faire tomber. Et je pense que nous l'avons expérimenté dans notre vie. Ceci dit, il ne serait pas juste de systématiquement reporter la faute de toutes nos chutes et de toutes nos faiblesses et de tout notre péché sur le diable lui-même. Nous ne sommes pas entièrement saints. Par conséquent, il nous arrive encore de commettre le mal et nous en sommes responsables. Nous nous rendons bien souvent complices du mal, au point que le diable lui-même n'a peut-être pas grand-chose à faire pour que nous tombions. C'est notre cœur qui n'est pas encore pur, et rien n'est simple dans la réalité, et encore moins dans nos tentations. Même si ce n'est pas simple, c'est quand même légitime de se poser certaines questions, même sur les points les plus mystérieux de l'existence, et avec un texte comme celui-là, on touche quelque part au problème du mal pour lequel il n'y a pas vraiment de réponse théorique dans la Bible. Au problème du mal, d'où vient-il, etc. Comment se fait-il que le mal puisse advenir dans une création entièrement bonne? Mais il y a une réponse toute pratique. Le mal est mal et il est à combattre plutôt qu'à comprendre. Dieu reste bon car son plan est de juger le mal, et qu'un jour, il n'y aura plus jamais de mal. Le problème du mal est aussi abordé de façon très pratique dans la Bible, parce que la Bible nous apporte la solution au mal. La solution au mal est de revenir à Jésus-Christ, à Dieu par Jésus-Christ. On pourrait comprendre tout ce passage sur un plan assez général en nous disant que Jacques parle du péché de l'être humain, de la chute, c'est-à-dire de la rupture de la communion avec Dieu et de la mort qui en est la conséquence. Puis ensuite, il parle de la rédemption, du pardon acquis par Dieu en Jésus, son Fils, qui nous sauve et qui nous donne la vie. Mais notre passage a, me semble-t-il, une visée plus personnelle que cela. Jacques veut nous interpeller par rapport à nos tentations personnelles et nos péchés personnels. Et il évoque pour cela trois moments, si on peut parler comme ça, ou trois temps de la tentation, qui sont comparés de façon assez audacieuse, il faut le reconnaître, aux trois temps du projet parental. Le temps du désir, le temps de la conception et le temps de la naissance. Ce processus est normalement un processus de vie. Nous désirons, en tant que parents, avoir un enfant. L'enfant est conçu, puis 9 mois après, il est né. Mais Jacques ose utiliser cette image pour parler d'un processus complètement contraire et opposé, d'un processus de mort. Pour parler du péché, de la croissance, on pourrait dire du péché dans notre vie, du désir, la conception, la naissance, qui va jusqu'à la mort. C'est pas tout à fait. Si Jacques fait une distinction entre ces trois moments, c'est qu'ils ne sont pas simultanés. Peut-être que ces trois moments peuvent être rapprochés, mais il y a peut-être quand même un espace entre chacun pour éventuellement enrayer ou empêcher le passage d'une étape à l'autre. Tout d'abord, là, entre le premier et deuxième moment de la tentation, c'est là que se situe le point culminant de la tentation, entre le fait de désirer une chose qui n'est pas bonne pour nous et le temps de la concevoir. Tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Le mot qui est utilisé ici pour parler des désirs est relativement fréquent dans la Bible. Le mot en lui-même n'est pas ici connoté négativement. Nous pouvons avoir de bons désirs, comme le souligne par exemple l'auteur des psaumes ou des proverbes. Dieu peut répondre aux désirs de ceux qui sont justes, qui désirent de bonnes choses, c'est-à-dire des choses qui sont conformes à sa volonté pour nous. Mais dans notre texte, évidemment, le contexte nous montre qu'il s'agit de désirs mauvais, des propres désirs qui sont mauvais, comme un petit peu dans la deuxième épître de Pierre, où il est question d'échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde. Et on pourrait traduire, et comme certaines traductions le font d'ailleurs, ces mauvais désirs par la convoitise, comme le font d'anciennes traductions. Aujourd'hui, nos désirs sont sans cesse sollicités, en particulier par la publicité, mais aussi par les idées qui circulent dans notre monde, où tout est fait pour nous faire croire que nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut. Nous avons envie d'avoir ce que nous voyons autour de nous, chez nos voisins, nos amis, ou peut-être à la télévision aussi. L'apôtre Jean parle d'ailleurs du désir des yeux dans sa première épître. C'est comme ça que fonctionnent souvent d'ailleurs les rouages du commerce. Et les commerçants le savent bien. Parmi tous ces désirs, certains sont mauvais parce qu'ils nous poussent à remplacer Dieu par une contrefaçon de Dieu, par exemple l'argent qui peut devenir une idole, ou à remplacer l'amour du prochain par son intérêt personnel, ou à remplacer la vie normale dans ce monde par des excès en tout genre, par des désirs centrés essentiellement sur soi. Les philosophes grecs et ensuite les théologiens chrétiens ont essayé un petit peu de classifier ces désirs et ils les ont classés en trois catégories. Il y a le désir de connaître, afin de satisfaire notre curiosité, notre soif de comprendre. Ce désir peut nous pousser à vouloir, s'il devient peut-être excessif, ce désir pourrait nous pousser à vouloir nous sauver nous-mêmes par notre connaissance. Ce désir pourrait nous aller jusqu'à l'orgueil, nous faire penser qu'on n'a plus besoin de Dieu. Deuxième sorte de désir, le désir de ressentir, de vivre des sensations plaisantes. Ce désir peut nous pousser à une forme d'égoïsme, en ne pensant plus qu'à notre plaisir, sans aucune limite, sans aucune considération éthique. À la fin des temps, les hommes et les femmes aimeront le plaisir plus que Dieu, nous dit l'apôtre Paul en 2 Timothée chapitre 3, verset 4. Et troisième type de désir, le désir de dominer, c'est-à-dire le désir d'exercer un certain pouvoir, notamment sur nos semblables. Ce désir peut nous pousser à opprimer notre prochain, à exercer un pouvoir qui n'est pas légitime. Ces trois désirs ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils le deviennent par l'excès, par la démesure ou par le détournement du but qui est bon à l'origine, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Ces désirs, au lieu d'être des forces positives, peuvent nous dépasser et même nous submerger. Ils peuvent devenir, en tout cas on en a l'impression quelquefois, irrésistibles. Et c'est là que l'appétit, qui est quelque chose de légitime, se transforme en voracité. Et c'est là aussi que nous devenons esclaves de nos désirs, de notre désir ou de nos désirs. Jacques est précis dans le choix de son vocabulaire, il utilise également deux verbes synonymes, rares, pour décrire le mouvement de la tentation. Un premier verbe, deliazo, et un deuxième, exelko, qui ne sont utilisés qu'une poignée de fois dans le Nouveau Testament, et même le deuxième n'est employé qu'une fois par Jacques dans tout le Nouveau Testament. Et ces deux verbes peuvent se traduire par être attiré par quelque chose, être entraîné, être emporté, être séduit par, être appâté, être leurré. Ce qui fait dire à un commentateur le jeu de mots suivant, qui est en même temps une illustration, que le péché fait du pécheur un poisson pêché par un pêcheur. À l'origine de la tentation, il y a souvent un mensonge. Le mensonge est comme justement ce leurre, hein, cet appât qu'utilisent les pêcheurs. Il a l'apparence d'une bonne chose pour nous, mais c'est un piège. Et on peut penser à la manœuvre du diable dans le jardin d'Éden, qui tout d'abord insinue le doute, Dieu a-t-il réellement dit ? Puis il met en œuvre toutes les ressources de la séduction en recourant au mensonge, tout simplement en leur disant « vous serez comme des dieux », ce qui était tout simplement un mensonge. On se laisse tromper par son propre désir, que l'on imagine parfois bien fondé, alors qu'il nous entraîne à notre perte. Jacques ajoute « tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. » L'espace de temps que je mentionnais tout à l'heure entre la conception et la naissance peut aller des fois très vite dans notre expérience personnelle. Le temps du désir, c'est déjà en germe le péché ou l'idée du péché qui s'insinue dans notre pensée et qui peut finir par naître et se développer. Mais c'est aussi un temps de transition où on peut exercer encore un discernement, où on peut prendre du recul, chercher auprès de Dieu des ressources que nous n'avons pas en nous-mêmes, la sagesse et la force pour résister à la tentation. Avez-vous remarqué le laps de temps plus ou moins court qui existe quand le choix est encore possible devant la tentation, entre l'idée et le passage à l'acte? Il y a toujours un moment. Il y a toujours ce temps où l'on peut encore faire un choix et reculer devant la tentation, devant les désirs non justifiés ou excessifs. Est-ce que nous savons saisir le Seigneur dans ce moment-là, faire appel à lui, lui demander son aide, lui demander le secours de son esprit pour y voir clair, pour résister à un désir des fois que l'on sait pertinemment mauvais. Est-ce que nous savons saisir ce moment-là, qui est un moment de grâce, pour résister ? C'est là que le fait de penser aux conséquences peut-être du mauvais choix peut nous aider à trouver la force d'y renoncer. Est-ce que nous savons saisir aussi ce moment pour demander la prière, un conseil ou de l'aide à un parent, un ami, un pasteur, un conseiller spécialisé ? Saisissons ce moment où tout est encore possible, ce moment avant de nous laisser entraîner et piéger par nos propres désirs. Il est bon de se poser une question face à la tentation, sans doute d'autres encore, je vous en propose une ce matin. Est-ce que cela va me donner une vraie liberté ou bien, au contraire, m'enchaîner ? Attention au piège, on croit parfois trouver la liberté en cédant à la tentation et c'est tout l'inverse qui se produit. Et là encore, on a un des ressorts du mensonge. Chacun sait par exemple qu'un mensonge, justement, ne va pas nous rendre libres, il va nous rendre prisonniers de ce mensonge, et il va en entraîner d'autres, jusqu'à l'aveu de la vérité, ou jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour, dans ce monde, ou le jour du jugement. Petite remarque aussi, qui peut nous aider, que résister par amour est plus facile que de résister par devoir, même si l'amour n'exclut pas le devoir. Dans l'épreuve de notre foi, comme dans la tentation suscitée par nos désirs, L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande de fixer nos yeux non sur les biens de ce monde, ni sur soi-même, mais sur Jésus, qui a résisté à la tentation jusqu'à la mort et qui a remporté la victoire une fois pour toutes en notre faveur. Jésus nous a délivrés de la mort. Il a tout fait pour qu'en lui, nous ayons la force de résister à ce qui nous entraîne vers la mort. Non seulement il peut, mais en plus il veut nous libérer de l'esclavage de nos mauvais désirs. Dieu est l'auteur de tout don excellent et de tout cadeau parfait. Il est le Père des Lumières et il nous donne ce qui est bon. Il nous aime, il nous a engendrés pour la vie et non pour la mort. Il nous a engendrés pour la vie par sa parole. Enfin, quand il nous arrive de céder à la tentation, rappelons-nous ceci, que Jésus est venu aussi pour cela, qu'il a payé de sa vie pour que nous ayons accès à un plein pardon pour nos chutes, accès à la grâce, au pardon de Dieu notre Père. Quand nous cédons à la tentation, il y a une seule solution, c'est de venir à la croix. Et la maturité chrétienne consiste à revenir le plus souvent possible à la croix et le plus rapidement possible. C'est là que nous recevons le pardon. Jésus-Christ est notre avocat fidèle. Il est toujours prêt à prendre notre défense et lorsqu'il nous défend, plus personne ne peut rien dire. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Il a été cloué à la croix à notre place. Il a pris sur lui notre condamnation, notre punition pour toutes les fois où nous avons succombé à la tentation. Voilà comment Jésus prend notre défense. Les premiers chrétiens qui lisaient cet épître de Jacques devaient faire face à la tentation d'abandonner la foi en raison de la persécution. Aujourd'hui, les tentations auxquelles nous sommes confrontés sont plus subtiles, mais elles n'en sont pas moins diablement efficaces. Que ce soit pour les premiers chrétiens ou pour nous, rappelons-nous encore aussi qu'il y a un vrai bonheur à résister à la tentation et à remporter la victoire sur nos mauvais désirs. Prions le Seigneur de nous donner par l'Esprit qu'il fait vivre en nous la force, l'amour et la sagesse pour résister à nos tentations. Amen.